Aujourd'hui, la masterclass de Mathilde Monnier avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass de Mathilde Monnier, danseuse, chorégraphe, directrice du Centre National de la Danse. Je vais bien sûr faire quelques rappels biographiques concernant votre parcours, Mathilde Monnier, mais peut-être une question préalable, puisque si on lit votre biographie sur votre site internet, le début de la première phrase est le suivant, « Venu à la danse tardivement ». Est-ce que vous croyez à la vocation pour autant, Mathilde Monnier ?
Je pense pas que le terme me convienne véritablement, vocation, mais néanmoins, je pense que j'ai pratiquement toujours dansé. C'est-à-dire que depuis petite, je pense que dès que j'ai marché, j'ai dansé. Et il se trouve que la danse m'a habité toute ma vie, a été mon moteur dans ma vie. Donc peut-être ça s'appelle la vocation, mais pas en termes de carrière, plutôt en termes d'être au monde.
Le tardivement, ça veut dire après quoi ? Venu à la danse, tardivement ?
Tardivement, dans un métier où normalement, effectivement, il faudrait avoir commencé plutôt à l'âge de 10 ans. Moi, j'ai véritablement commencé à prendre des cours de danse à l'âge de 15-16 ans. Ce qui est déjà tard parce que le corps est formé, voilà. Et toute la phase où le corps peut encore se transformer est dépassée. Donc moi j'avais déjà mon corps d'adulte, ce qui fait que c'est toujours plus difficile de transformer son corps, d'un point de vue anatomique je dis.
Mais est-ce que c'est pas finalement une forme d'atout aussi de commencer tardivement ? Votre corps d'adulte, vous l'aviez, c'est avec cet outil-là que vous alliez pouvoir travailler, alors qu'effectivement, je ne m'étais pas posé la question, mais en vous écoutant, commençant effectivement la plupart du temps très jeune, non seulement on travaille sur son corps, mais on travaille sur un corps qui est en train de changer de façon très importante. Vous, c'était fait.
Moi, c'était fait, mais c'est jamais complètement fait, parce que je crois que même encore maintenant, je continue à mon corps change, et je pense que le corps change toute sa vie, et il a toujours la possibilité de changer. C'est ça qui est incroyable, de découvrir encore qu'à 50 ans passés, on peut encore modifier son corps. Donc j'ai toujours bâti mon travail sur cette possibilité constante de faire que le corps réserve des surprises incroyables.
On reviendra sur quelques-unes de ces surprises. Je poursuis le court résumé biographique pour dire que vous avez débuté donc comme danseuse dans la compagnie de Viola Farber, que puis vous avez débuté en 83 à créer vous-même des pièces chorégraphiques en solo, en duo, en groupe. La première, c'était vraiment en groupe. Là, en 1983, vous étiez 5 à co-signer avec notamment Joseph Nadj et François Véret. Plusieurs créations ensuite avec Jean-François Durour, puis la première création solo « Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt » en 88. Cette première fois, toute seule, mais cachée, vous en avez quel souvenir, Mathilde Monnier ?
Alors, ça a correspondu à un moment très important pour moi, parce que je travaillais donc avec Jean-François Durour, avec qui j'avais fait déjà deux créations. D'une certaine manière, c'était une manière aussi de se protéger, de faire des créations à deux, et puis pour des circonstances assez douloureuse, assez compliquée. On s'est retrouvés, Jean-François et moi, à faire chacun c'était comme une commande, à devoir faire une pièce, chacun seul de notre côté. Et moi, je me suis retrouvée en 7 semaines, il a fallu que le théâtre de la Bastille m'avait commandé une pièce et il fallait répondre à la commande. Et en 7 semaines, j'ai fait cette pièce, Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt. Ça a été une sorte de bolide artistique parce qu'il a fallu la faire très vite. Et ça a correspondu aussi à la mort de mon père qui est décédé pendant la création. C'était une espèce de pièce à la fois comme une naissance et en même temps complètement chaotique. En même temps, j'étais dans un grand bouleversement de ma vie et tout est arrivé un petit peu en même temps.
On reviendra peut-être là-dessus. Résumé, là encore très court, à propos de collaboration, cette pièce, sauf erreur, c'est la première dont Annie Toletter signe la scénographie. Et on verra à quel point elle en a signé de très très nombreuses autres depuis. Et puis collaboration, on y reviendra aussi. Vous avez co-signé des pièces avec des artistes d'horizons très divers, de Louis Clavis à Dominique Figarella, Christine Angot, Philippe Catherine, Larry Beau, Einar Goebbels. On y reviendra et dire aussi que vous avez dirigé le centre chorégraphique, alors qu'il n'était peut-être pas national au début, mais qu'il est devenu de Montpellier, Languedoc-Roussillon, de 94 à 2014. Et 2014 date de votre prise de fonction à la direction du Centre National de la Danse. On reparlera de cette fonction de direction également, mais ça c'est la présentation très sommaire. Avant d'entrer maintenant dans le détail de votre processus de création, Mathilde Monnier, peut-être revenir à la question de la vocation. Pourquoi, qu'est-ce qui vous a fait choisir une forme d'art plutôt qu'une autre? Pourquoi la danse? Pourquoi pas la peinture, la musique, l'écriture?
Alors, j'aurais aimé faire de la musique, en fait. Je crois que sur le fond, si j'avais pu, j'aurais souhaité être pianiste. Bon, il se trouve que, voilà, le hasard de la vie a fait que quand j'étais enfant, j'habitais puisque j'habitais au Maroc, dans une toute petite ville. Il y avait bien sûr aucune activité artistique, tout ça n'existait pas. Il y avait ni cours de piano, ni cours de danse. Donc quand je suis revenue en France, j'étais déjà une adolescente. Et en fait, j'ai souhaité faire du piano. Et il s'est trouvé que la professeure de piano, le premier jour du cours, m'a dit que j'avais des mains qui étaient beaucoup trop souples et qui ne seraient jamais assez musclées et que je ne pourrais pas jamais être une bonne pianiste et qu'il fallait mieux s'arrêter tout de suite dès la première leçon. Et je dois dire que ça a été toujours un grand, grand, grand regret dans ma vie. Et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, si je fais pas de la musique, je vais peut-être prendre un cours de danse. Et je suis allée dans une petite école de province, commencer des cours de danse. Et on m'a dit aussi, tu ne peux pas faire de classique, il faut que tu fasses du contemporain, du moderne. À l'époque, on disait du moderne. Parce que, tu es aussi trop âgée, tu ne peux pas prendre des cours de danse.
On a décidé pour vous.
Oui, je pense que j'ai aussi décidé pour moi-même. En tout cas, c'est souvent comme ça dans la vie. Les choses décident pour. On croit que les choses décident pour vous, mais finalement, on est quand même acteur de ses propres décisions.
Alors, pour autant, il y a évidemment d'autres arts qui nourrissent votre travail. C'est évident pour les collaborations dont on va parler, mais au-delà de ces travaux co-signés, quelle place a le cinéma, les arts plastiques, la littérature?
Je crois que la place de la littérature est la place la plus importante parce que je lis toujours un peu tout. J'ai une culture très éclectique et je crois que c'est une grande nécessité dans ma vie d'être accompagnée par la littérature. Ça a beaucoup occupé mon travail, ça l'occupe d'une manière récurrente. Le cinéma peut-être un peu moins. Le cinéma et les arts plastiques, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tardivement. Par contre, c'est vrai que ce serait plutôt la littérature et la musique
qui
m'enchantent.
Il y a plusieurs livres sur votre table de chevet, toujours ?
Il y a toujours plusieurs livres, oui, dont très différents, que je lis d'une manière concomitante, suivant les envies, le temps que j'ai.
Mais ça crée aussi du montage dans votre esprit ? De passer d'un roman à un essai philosophique, à la poésie.
Oui, bien sûr, ça crée du montage. Après, j'essaye aussi de j'aime bien, par exemple, lire tout un auteur, rentrer dans l'œuvre d'un auteur du début à la fin. Ça, c'est toujours un voyage incroyable qui m'enrichit beaucoup et comme une sorte de rétrospective, et ça c'est peut-être ça aussi qui me permet de mieux comprendre en fait comment les autres travaillent aussi. Lire un auteur du début à la fin, c'est très important.
Et les écrits sur la danse, ça vous intéresse?
Moyennement, j'avoue que j'ai plus de mal à lire. Je trouve ça toujours un peu ennuyeux. Je devrais pas dire ça en tant que directrice du Centre National de la Danse, parce que nous avons
qui édite de formidables
livres.
Oui,
qui édite de formidables livres. Après, j'aime beaucoup, par exemple, le journal de Valeska Gert, le journal de Leszczynski. J'aime beaucoup les journaux parce que c'est la parole de l'artiste en premier. Mais alors les ouvrages plus techniques, c'est un peu plus laborieux, cette espèce de description, du mouvement. Et en même temps, c'est nécessaire. Je pense que c'est très important qu'il y ait des ouvrages sur la danse. Et là, on a sorti un très très bel ouvrage de Noé Soulier, qui est ce jeune chorégraphe, qui pour le coup que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu avec grand plaisir.
Alors, pour être aussi un peu plus précis sur votre parcours, Mathilde Monnier, il faut revenir quand même sur ce séjour en Afrique en 1992, un séjour qui va donner naissance tout d'abord au spectacle Antigone. Vous dites qu'avant cette date, vos pièces accumulaient les belles formes, je vous cite, sans savoir où vous alliez, que c'est grâce aux danseurs africains que vous avez accédé à la nécessité intérieure de votre danse, à sa vérité profonde. Est-ce que c'est à partir de cette expérience concrète, finalement, de découverte d'un pays, d'artistes de ces pays, que vous êtes venu à une forme de danse abstraite ?
Je ne crois pas que je fasse une danse abstraite.
À cette époque-là, vous le disiez.
Ouais, je le disais. D'accord. Ok. Je pense qu'il y a eu, voilà, les tout premiers spectacles ont eu des spectacles qui ont Pudicacide, Ecstasis, La Femme Cachée, qui ont une sorte de vérité qui correspondait à une vérité de quelque chose que j'avais besoin d'exprimer sur le plateau. Et puis après, effectivement, il y a eu des pièces un peu moins nécessaires, un peu moins, voilà, un peu moins intéressantes. Il y a une sorte de passage à vide et je me suis dit qu'il fallait que j'aille me ressourcer, voyager, et voilà, la danse africaine a commencé, j'ai commencé à m'intéresser à cette danse-là, à cette technique, et j'ai fait un premier voyage, donc, au Burkina Faso et au Mali, pour aller juste regarder, en fait, c'est des pays où il y a un foisonnement de danse. Il y a plus de 70 ethnies, par exemple, au Burkina Faso, et il y a autant peut-être, minimum autant de danse, mais bon, sans doute, peut-être beaucoup plus que ça. Et voilà, j'ai fait ce voyage de un peu une forme de tourisme de la danse, et je suis allée dans les villages, je suis allée voir des danses. Ce que j'avais fait aussi quand j'étais à Bali. Quelques années avant, j'étais aussi allée à Bali, et ça a été un voyage très très important pour moi. J'ai reçu la bourse de la Villa Médicis, et j'étais allée à Bali aussi pour aller voir des maîtres qui forment des jeunes enfants en danse balinaise. Et voilà, ces deux voyages ont été des moments qui m'ont habité et marqué toute ma vie, dans lesquels j'ai tiré de grands enseignements.
Qui se traduisent comment, concrètement? Parce que de ce tourisme de la danse à une, quelque chose d'une une forme de renaissance dans votre création, une nouvelle impulsion de votre écriture, c'est là qu'on aimerait être dans votre tête, Mathilde Monnier, pour savoir comment ça se traduit concrètement dans le travail.
Alors, je pourrais donner un exemple très très précis à Bali. En fait, ce qui m'avait complètement fascinée à Bali, c'est notamment dans la transmission de la danse balinaise chez les petits-enfants, donc qui ont en général entre 9 et 7 ans, c'est qu'en fait, le maître se positionne derrière le danseur et que la transmission se fait par le dos. Donc, en fait, le maître tient le jeune enfant par les coudes, puisqu'en fait les bras sont très levés à hauteur des épaules, et en fait le maître guide l'enfant comme une marionnette par le dos. Donc on à la différence de la danse classique, la danse contemporaine, l'enfant n'a pas le miroir, il ne voit pas face à lui l'exemple de ce qu'il a à faire, mais il le ressent dans le dos. Et un peu comme les marionnettes de Java, voilà, qu'on soutient à partir des épaules avec des fils. Et donc cette idée que finalement le modèle n'est pas en face de soi comme une image, mais derrière soi, et qu'on le ressent par la colonne vertébrale. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai beaucoup utilisé quand j'ai fait un travail donc en hôpital psychiatrique avec des autistes, et qui a été une sorte de fil conducteur pour moi dans la pratique de transmission du mouvement dansé.
Il y a ce que vous avez vu, ressenti dans ces voyages, mais on parlait de la façon dont les autres arts pouvaient nourrir votre travail, Mathilde Monnier. Comment la danse des autres, les autres chorégraphes, alors occidentaux, africains, asiatiques, peut nourrir votre travail à vous? Comment vous regardez la danse des autres?
Je la regarde avec beaucoup de curiosité, aussi de la jalousie parfois, parce que je vois des choses extraordinaires. C'est vrai que j'ai été très nourrie, notamment par la danse américaine, notamment par le travail de Merce Cunningham, puisque j'ai eu cette bourse pour aller à New York, et j'ai eu la chance de travailler dans le studio de Merce Cunningham. Et j'aurais adoré rentrer dans la compagnie, mais à l'époque, Merce ne prenait pas de danseurs européens. Et tant mieux pour moi.
Ça aurait été une autre vie.
une autre vie, oui. Et vraiment, cette rencontre avec Merce Cunningham a été quelque chose qui m'a nourri toute ma vie. À des moments très, très différents dans mon parcours. À chaque fois que je voyais les pièces de Merce, je pouvais saisir l'intelligence du travail, l'intelligence et la complexité de cette danse. Et je crois que ça a été tout le temps un espace pour moi qui m'a à la fois donné du courage, qui m'a aidé à continuer, qui m'a aidé à persister en fait dans des moments de difficulté. Je pense aussi que Merce Cunningham, le fait qu'il ait dansé si tard aussi, ça a été un exemple incroyable pour toute notre génération, qu'il se soit tout le temps remis en question, qu'il se soit en permanence, qu'il invente en permanence son rapport au mouvement, qu'il ait toujours cette malice dans la danse, cet humour, ce détachement aussi, que la danse soit à la fois quelque chose d'extrêmement important, mais en même temps extrêmement sérieux et en même temps extrêmement léger. Voilà, donc ça c'est une expérience qui a été et qui reste toujours extrêmement importante.
C'est vrai que tout ce que vous venez de dire sur lui, on pourrait l'entendre vous concernant, Mathilde Monnier, ce rapport à la réinvention, cet humour, cette distance, ce très grand sérieux, cette légèreté, cette force. Vous entendez que vous venez aussi de parler de vous en parlant de lui?
Tant mieux. Bah, oui, peut-être, sûrement. Je pense qu'on va chercher chez les autres quelque chose qu'on a en soi, sans doute, ou en tout cas qu'on espère atteindre. Et oui, je crois que cette distance que l'art permet, c'est peut-être l'endroit finalement où je me situe. C'est-à-dire, c'est jamais totalement tragique, mais c'est jamais totalement comique non plus, mais c'est jamais ironique. Ça, c'est important. Mon travail n'est ni ironique ni sarcastique. Il y a un autre endroit qui est peut-être un endroit d'une certaine légèreté. Oui.
Légèreté sérieuse.
Légèreté sérieuse. Je n'osais pas le dire. Vous le dites pour moi. Je l'avais dans ma tête et je me disais, mais légèreté sérieuse, c'est une drôle d'expression, mais c'est effectivement ça.
Il y a les maîtres, alors il y a Merce Cunningham surtout pour vous, il y a d'autres de cette génération-là qui comptent bien sûr, et puis il y a vos contemporains, et puis il y a ceux qui sont venus depuis. Qui est-ce qui compte pour vous dans le paysage, de qui vous avez envie de voir les créations aujourd'hui, Mathilde Monnier?
Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, mais il y a quand même quelqu'un dont je voudrais parler, qui était extrêmement important pour moi, qui n'est pas quelqu'un de la danse, qui est Tadeusz Kantor. Étrangement, je pense que c'est là, je pense que c'est un des artistes qui m'a le plus marqué, qui a été un choc perpétuel, qui m'a imprimé, en tout cas, un univers. Parce que, justement, chez Tadeusz Kantor, c'est à la fois la vie, la mort, la naissance, le recommencement, les âges de la vie, le défilé des âges de la vie. Il y a une espèce d'essentialité de la vie et de ce manège qui tourne en permanence. Et ça, c'est Tadeusz Kantor m'a habité et m'habite toujours dans chacune de mes pièces. C'est vrai que c'est quelque chose dont je ne parle pas tellement, parce que c'est pas du tout quelqu'un qui vient bien sûr du monde de la danse. En même temps, il y a toujours de la chorégraphie dans toutes ses œuvres. Et j'avais fait ce stage, le fameux stage à Charleville-Mézières avec lui. J'étais là, il y a eu un stage en France avec Tadeusz Kantor et j'en faisais partie. Je me suis battue comme une folle pour être dans ce stage. J'ai écrit à tout le monde, je voulais absolument y être. Et il se trouve que quand même, j'ai quitté le stage au bout d'une semaine. Parce que je me suis dit que si je restais dans ce stage toute ma vie, je ne ferais que du Tadeusz Kantor. C'était tellement puissant, l'impact, la puissance de Tadeusz, de ses mots, de l'univers de travail, du temps de répétition, qu'il a fallu que je m'enfuie de ce stage pour finalement échapper à la prise, à la puissance, à la force de ce travail sur lequel je pense j'aurais fait. Voilà, je serais restée complètement scotchée toute ma vie.
Mais dans cette semaine, il reste quoi qui vous nourrit aujourd'hui?
Il reste beaucoup, beaucoup de choses. Je pense notamment le travail que fait Tadeusz sur la question de la répétition. Du coup, pas au sens américain du système répétitif dans la danse répétitive américaine, mais au sens où du recommencement. chez Tadeusz Kantor, en fait, le spectacle est un éternel recommencement, tout revient à zéro, et cette boucle de la vie qui sans cesse, comme si la notion même de temps n'existait pas, était quelque chose de complet. Enfin, comme si la notion même de spectacle était quelque chose d'intemporel, donc pas marqué dans une actualité. Mais que finalement les spectacles de Cantor, je pense qu'on pourrait les voir à n'importe quelle époque, ils seraient toujours contemporains. Et puis la puissance aussi des acteurs, le fait aussi que les acteurs de Cantor sont des gens, ce sont bien sûr des professionnels, mais ce sont des gens qui ont cette marque de la vie, puisqu'il y a des personnes de tout âge dans les spectacles de Cantor, ce sont des personnages. Et puis la place de Tadeusz Kantor qui est toujours à la limite entre la scène et la salle. Voilà, cette place-là, qui c'est cette place que je cherche toujours en permanence, qui est cette place du quatrième mur. En fait, il est ce quatrième mur et c'est lui qui fait cette passation.
Alors, pour poursuivre cette masterclass de Mathilde Monnier sur France Culture, une question alors qu'on pose évidemment à tous les artistes qui se succèdent dans cette émission, c'est comment vient l'idée de départ d'une nouvelle œuvre, une nouvelle création? Est-ce que justement c'est une idée? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est une réaction à l'œuvre précédente? Est-ce que vous savez, vous, d'où ça vient, la naissance d'une nouvelle pièce chorégraphique?
C'est toujours très très difficile de répondre à cette question, parce que d'abord c'est pas toujours pareil. Ça c'est important.
Est-ce que c'est toujours différent?
C'est pas toujours différent. En fait, c'est une question que je me pose régulièrement. Et je crois que c'est parfois entre. C'est parfois d'arriver à saisir quelque chose. Donc, ça peut être une idée, rarement une image, parfois un mouvement, qui d'un coup correspond à une nécessité intérieure. Et ce qu'il faut arriver à déceler, c'est cette nécessité intérieure. C'est-à-dire avoir une sorte de sincérité avec soi-même pour se dire finalement cette idée, ce projet, ce point de départ, c'est exactement cette chose que je dois résoudre aujourd'hui, et c'est une nécessité vitale. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre chose que je dois faire dans ma vie que cette chose-là aujourd'hui. Et quelquefois c'est très difficile à déceler, et parce que il faut pouvoir comprendre que cette problématique, cette idée, elle est la plus importante pour vous, et que parfois on ne la voit pas parce qu'il y a plein de filtres avant qu'il faut enlever, qu'il faut dégager. Donc c'est une chose très 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 personnelle, et je crois qu'il faut apprendre à découvrir ça en soi et le laisser parler.
Et est-ce que des fois on se trompe parce qu'on avait oublié d'enlever encore un filtre et qu'on part sur une mauvaise piste, ou est-ce que des fois c'est bien la bonne question, mais c'est pas le moment pour l'affronter?
Moi, je me suis souvent trompée, et ça, je m'en suis rendu compte, et ça, c'est terrible, parce que c'est voilà, quand on part sur un projet et qu'on se rend compte que finalement ça correspond à quelque chose qui est assez artificiel, ou qui est pas exactement à l'endroit de c'est difficile de donner les mots exacts, mais. Et ça, c'est terrible, parce qu'alors on part sur une fausse piste. Par contre, quand il y a une sorte de coïncidence, parce que c'est une histoire de coïncidence en soi-même, là, les choses se déroulent d'une manière beaucoup plus facile et fluide. Et il faut accepter aussi que nos propres idées soient des idées très bizarres, pas du tout dans l'air du temps, qui ne correspondent pas à ce que les autres cherchent. Il faut aussi accepter que les idées sont parfois des idées très saugrenues, et qu'elle ne correspond pas à ce que les producteurs voudraient, qu'elle ne correspond pas à ce qu'est aujourd'hui peut-être une attente, là où on vous attend. Donc il faut accepter ça aussi. Ça, c'est plus compliqué.
Un exemple d'idée saugrenue parmi les créations de Mathilde Monnier qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait de vous, ou ce qui était dans l'air du temps, mais qui était votre nécessité?
Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Par exemple, quand j'ai commencé à faire ce travail avec les autistes, alors que je venais d'arriver à Montpellier, dans cette ville où on attendait quelque chose d'assez flamboyant dans mes créations. Pourquoi est-ce qu'elle va travailler avec des autistes? C'est quand même une chose, voilà, sur cette question du langage non-verbal. Après, il y a eu aussi la pièce Déroute, où j'ai commencé à travailler sur l'œuvre de Büchner. Pourquoi est-ce qu'une artiste chorégraphique travaille sur Büchner, sur La Marche? Alors c'est vrai que la postmoderne danse avait déjà expliqué a déjà travaillé sur la thématique de la marche, mais pourquoi y revenir? Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à parler du projet, les gens m'ont regardé en disant mais c'est trop sec, c'est pas très intéressant, la marche c'est pas la danse, voilà. Et là il faut se battre, il faut défendre, il faut tenir.
Une fois qu'on a l'idée, alors je pense que ce sera évidemment plus simple de s'appuyer à chaque fois peut-être sur des pièces précises, Mathilde Monnier, mais quand on a l'idée, comment est-ce qu'on trouve la forme? Quand même, évidemment, la question est d'importance, et surtout dans l'art chorégraphique. Ouais. Et peut-être, incidemment, au sens où c'est lié, j'évoquais tout à l'heure au début de la masterclass le nom d'Annie Toletter, scénographe. Alors, j'ai pas réussi à compter le nombre de collaborations, mais elles sont très nombreuses. À quel moment est-ce qu'elle intervient dans le travail? Parce que l'espace de jeu, l'espace de danse, voilà, c'est très lié avec la première question que je posais, celle de comment on trouve la forme à partir d'une idée.
Alors la chance de la danse, c'est la pratique. C'est effectivement d'être tous les jours dans un studio, et de pratiquer et de remettre la pratique au travail et de recommencer et de refaire. Donc là-dessus, c'est une espèce de stabilité. La pratique, c'est une stabilité. C'est vraiment un endroit où sur lequel on peut s'appuyer. Peut-être il y a des jours où il ne se passe pas grand-chose. On danse, on cherche, on a quelques idées de mouvements qui vont. On essaie de correspondre avec l'idée de. Par exemple, si je parle de la marche, pour donner un exemple très précis, alors je me mets à marcher dans le studio, puis alors je me marche dans le studio une heure ou deux, et voilà. Et c'est juste cette question de le faire. Il faut le faire, comme disait Merce Cunningham. C'est très rassurant. C'est-à-dire, voilà, on va dans le studio, puis on essaie de faire l'idée qu'on a dans la tête, et puis il faut passer plusieurs jours dessus, et au bout d'un moment, quelque chose se stabilise, par exemple, ou quelque chose se fortifie de cette expérience-là. Donc ça, c'est très agréable et très bien et très constant.
Et ça, c'est un travail solitaire. Là, vous êtes seule à ce moment-là?
Alors, je le fais souvent seule dans les périodes d'approche de création. Je travaille seule dans le studio. J'écris aussi beaucoup. En fait, depuis quelques années, j'ai développé plusieurs types de petites techniques personnelles pour me mettre au travail. Et une des techniques personnelles, c'est j'écris, je fais des formes de pratiques d'écriture automatique qui sont une manière de libérer en fait la tête. Alors, je fais vraiment de l'écriture automatique pendant une heure. J'écris comme ça, un peu tout ce qui me vient dans la tête. Et pareil, les filtres, au bout d'un moment, disparaissent, toute l'espèce de, pas la pollution, mais tout ce qu'on a vécu dans la journée, toutes les informations qu'on a en permanence, finalement, se mettre dans cette écriture-là, et au bout d'un moment, j'arrive à quelque chose d'un peu plus essentiel, et j'arrive au travail, en fait, finalement. Et puis, l'autre chose, c'est l'espace. Comme vous le disiez, donc, avec Annie Toletter, la première chose qui m'importe, c'est l'espace. Donc on passe des heures à organiser comment on va aménager le studio. Alors est-ce que la face va être derrière nous? Est-ce que on va mettre des chaises en quadrifrontal? Est-ce que la porte du studio va rester ouverte pendant les répétitions? Ou est-ce que quand les danseurs vont fermer, on va fermer la porte pour qu'ils soient complètement fermés? Mais parfois ça passe par des choses extrêmement obsessionnelles et pointilleuses. Pour moi, c'est très important comment les danseurs vont rentrer dans l'espace la première fois. Qu'est-ce qu'il y aura comme objet sur le plateau? Par exemple, est-ce qu'il y aura des costumes déjà? Est-ce qu'il y aura de la lumière? Est-ce qu'il y aura un tapis de danse? Est-ce qu'on va travailler sur du plancher? Est-ce qu'il y aura des chaussures? Ça passe par vraiment des choses très 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 pragmatiques. Et c'est à partir de ça que ça commence.
La méthode de travail, alors vous avez révélé quelques éléments à l'instant, Mathilde Monnier, mais est-ce que c'est aussi, hélas, les deux sont liés, il y a le corps et le corps de la danseuse. Est-ce qu'il y a une discipline particulière, des horaires particuliers, des rituels, des passages obligés dans vos journées, dans votre processus de création?
Oui, ça fait partie aussi de quelque chose qui est très sécurisant, c'est que même quand on n'a pas d'idée, même quand on a mal, et ben c'est d'être dans un studio le matin pendant une heure ou deux, parfois seul, parfois avec les danseurs, parfois avec Annie, et puis de se dire que cet espace-là, c'est quand même étrange avec la danse parce qu'on est un peu dans une boîte noire fermée hors du monde. Hein. Voilà, je pense comme l'écrivain aussi face à sa page blanche, mais il y a quelque chose d'assez, je sais pas comment on dit, un peu qui est réconfortant de se retrouver dans un espace qui est pas marqué par la vie. Voilà, où il y a aucune marque, voilà, tout est noir, il y a pas d'indice d'autre chose. Moi, j'aime pas travailler avec trop de documents autour de moi. Il faut que l'espace soit un peu neutre et vierge.
Pas de fenêtres non plus.
Il y a des fenêtres pour voir voir dehors, oui.
Ça pollue pas, ça perturbe
d'être en fait, c'est un peu cette notion d'enfermement qui est hyper intéressante.
Enfermé dehors. Quand même.
Enfermé dehors, voilà. Enfermé dehors, enfermé, voilà, avec son corps aussi.
Oui.
Et donc la structure de la journée, elle est très précise, elle est très importante parce qu'il y a des moments où on est fatigué. Et donc tout ça est extrêmement calibré. Penser dans la journée, les moments où on va avoir plus d'énergie, les moments où au contraire il faut se reposer. Et ça fait aussi, c'est très important, ça fait partie du travail et du rythme des répétitions, c'est-à-dire savoir gérer ce temps-là. Pour les danseurs, pour moi, pour le groupe.
Et votre corps, vous disiez, c'est étonnant à quel point il peut changer tout au long de la vie, comment on peut le changer, comment aussi il peut vouloir changer par lui-même. C'est une conversation quotidienne.
Oui, c'est une conversation journalière. Oui, alors c'est une conversation très professionnelle. Parce que bien sûr le à force de travailler son corps, c'est vrai que le corps gagne en expertise, en finesse, et c'est de l'hyper technicité quoi. On est vraiment dans une connaissance de soi qui est extrêmement technique, qui est extrêmement affinée et voilà, c'est comme de continuer à rentrer dans une sorte de logiciel très complexe dans lequel finalement on affine toutes les connexions. Parce que le corps, c'est une histoire de connexion, c'est-à-dire arriver à connecter les différentes parties de son corps. Ça, c'est la chose sans doute la plus importante d'un point de vue technique, c'est finalement comment, en fait, entre le pied qui est un peu plus éloigné de mon cerveau, comment est-ce que je vais arriver à connecter toutes ces parties entre elles et à les rassembler. Et donc ça, c'est un travail assez complexe qu'il faut pouvoir faire chaque jour. Et comment je vais pouvoir aussi donner des indications très très précises à mon corps et lui faire aussi ce que je souhaite lui faire faire, et c'est très très compliqué parce qu'en général c'est lui qui me donne des indications précises et c'est lui qui me donne un peu la météo peut-être quotidienne.
Mais votre propre corps, Mathilde Monnier, est-ce qu'il vous semble toujours aussi intéressant, parce qu'effectivement il y a le changement du temps, on peut se dire voilà, c'est plus difficile, on perd des fonctions, mais c'est peut-être d'autant plus riche justement que le corps change tout le temps et que du coup il nous amène à penser peut-être d'autres mouvements. Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez, vous?
Alors moi je trouve que je suis beaucoup plus en forme qu'avant et que mon corps est beaucoup plus performant qu'avant, en fait, parce que c'est pas seulement une question d'âge, le corps, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que c'est une question de connaissance de soi et de se connaître, de faire avec les blessures, de faire avec les difficultés, de faire avec le souffle, avec l'énergie. Et ça, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qui s'affine et c'est aussi ce qui s'adapte, en fait. Et c'est ce qu'on ne comprend pas quand on est un jeune danseur. Quand on est un jeune danseur, on pense que il faut absolument déployer tous les atouts du corps. En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe de ça. Il y a beaucoup plus de finesse. Et je crois que je suis meilleure sur un plateau aujourd'hui que je ne l'étais avant. En tout cas, je me sens mieux. Et physiquement, j'apprends encore énormément à des choses que je ne connaissais pas de mon corps. J'en apprends tous les jours.
Et qu'est-ce qui vous est le plus difficile dans le processus de création, finalement, parce qu'on a évoqué ces différentes étapes, la naissance, la possibilité de se tromper de projet, la répétition des journées. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Mathilde Monnier?
Ce qui est le plus difficile, c'est d'être constant, Ce qui est le plus difficile, oui, c'est d'être sincère avec soi-même, c'est-à-dire de ne pas se laisser emporter par d'autres influences, d'être intègre avec soi-même, de poursuivre ses propres obsessions, c'est ça. Il faut tenir ses propres obsessions et de maintenir ce cap-là, voilà. De pas se laisser prendre par ce qu'on peut voir chez les autres, même si on est extrêmement admiratif de ce qu'on peut voir chez d'autres chorégraphes, mais voilà, c'est d'arriver à tenir cette ligne-là. Ça, c'est difficile.
Alors peut-être que pour tenir ses obsessions, c'est bien d'aller à la rencontre de celles des autres. J'ai évoqué la question des collaborations. C'est vrai que c'est une question qu'on pose à tous les artistes qui se succèdent dans ces masterclass. Mais pour vous, évidemment, Mathilde Monnier, la question se pose plus particulièrement. Comment vous vient l'idée de proposer à un écrivain, Christine Angot, à un musicien, Philippe Catherine, à un plasticien, Dominique Figarella, ou à beaucoup d'autres, de travailler avec vous à une création commune? Est-ce que ça répond au même type de désir chez vous que les créations, je dirais, solo, ou est-ce qu'il s'agit à chaque fois d'un déclic, d'une nécessité différente? Qu'est-ce qui vous fait aller vers l'autre?
J'ai toujours été vers l'autre. D'abord, c'est une constance, puisque la première création que j'ai faite, donc j'étais déjà, c'était une création en collaboration. Et je pense qu'aussi ce qui m'a fait venir à la danse, c'est aussi de travailler avec les autres, c'est d'être en collectif. Et j'adore ça. Et c'est vraiment le moteur aussi de mon travail, c'est d'être dans un groupe, de travailler avec d'autres gens. Cette situation de la collaboration, elle est très naturelle. Ça n'a jamais été quelque chose d'exceptionnel dans mon travail. Ça a été toujours une sorte d'habitude, de dialogue qui a été qui m'a permis de peut-être aussi de répondre à des choses que je n'avais pas faites dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas fait des études de philosophie, donc je suis allée rencontrer un philosophe. J'ai pas été
Jean-Luc
musicienne.
Nancy.
Voilà. J'ai pas été musicienne, donc.
Esclavis, Heiner Goebbels, Philippe Catherine.
Voilà.
Des genres très différents aussi.
Oui,
on le voit, la palette
différent.
Est large.
Et donc, ça répond à des manques, en fait. J'ai comblé ces manques-là. Et c'est vrai que ça semble surprenant de travailler à deux, mais pour moi, je n'ai aucun souci sur le fait de co-signer des œuvres à deux. Et donc aussi, je crois qu'il y a des gens qui ont repéré que j'aimais travailler avec d'autres. Et donc, en fait, à partir du moment où ça a commencé comme ça, c'est plutôt, par exemple, des artistes qui sont venus vers moi. Par exemple, Philippe Catherine, c'est lui qui est venu en me disant, Mathilde, c'est un peu la spécialiste des collaborations, donc je vais aller la voir parce que je pense qu'elle sait faire ça et puis que, voilà, elle va bien le gérer. Et je crois que ça avait été repéré par certains artistes qui se disent, c'est pas si fréquent finalement d'aimer co-signer, par exemple. Et moi, je n'ai pas cette volonté de vouloir être la seule auteure de mes pièces, comme quelque chose qui serait, voilà, de cette notion d'auteur qui est toujours un petit peu en supériorité, qui est la personne qui pense dans son coin quelque chose d'absolument mystérieux, de dominant. Non, je pense que la création, c'est une affaire beaucoup plus concrète, beaucoup plus sale, qui se partage, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus chaotique, qui s'échange, qui se fait dans la difficulté. Voilà. Donc, j'aime beaucoup tout ce maelstrom qui arrive toujours dans une rencontre où finalement il y a du conflit, il y a de la tension, il y a des écarts. Et c'est là où, effectivement, pour moi, ça devient intéressant.
Et dans un article, dans une interview que vous donniez au moment, je crois, de votre entrée en fonction à Pantin, au CND, vous parlez de la danse comme de la puissance invitante. Est-ce que ça veut dire que dans ces collaborations, c'est quand même toujours la danse qui a le pouvoir, puissance, pouvoir?
Non, je crois pas que la danse a le pouvoir. Elle a la flexibilité, la d'accueillir l'autre, parce que justement, la danse, peut-être la danse contemporaine, c'est beaucoup beaucoup remis en question. Elle a beaucoup de souplesse. Il y a des espaces, il y a des trous dans la danse. Il y a des endroits à combler. Donc, bien sûr, il y a des compagnonnages historiques comme la danse et la musique, la danse et les arts plastiques, la danse et la peinture, toujours dans toute l'histoire de la danse. Mais c'est peut-être un des arts les plus perméables, qui est cette porosité et qui permet d'accueillir finalement un peu Ça peut être aussi l'architecture, même des choses complètement incongrues dont on ne penserait jamais qu'il y a un espace pour ça dans la danse.
À propos de travail et de votre travail, il y a ce très beau film de Claire Denis, Vers Mathilde, un film qui suit votre travail. Est-ce que vous avez appris des choses sur vous en voyant ce film de Claire Denis ?
C'est très difficile d'abord de se voir à l'image. Et ce qui était extraordinaire dans ce film, c'est que Claire m'a donc filmé dans les répétitions, donc à des moments de travail très intimes, puisqu'en fait, je pense que sur le fond, il n'y a rien de plus intime que de filmer quelqu'un en train de travailler, en train d'élaborer, en train de penser. Je pense que se mettre à nu est beaucoup moins intime que d'avoir quelqu'un derrière son dos alors que vous êtes juste en train d'être dans un tâtonnement, dans des difficultés, dans des doutes incroyables. Donc Claire, elle a filmé ça, c'est ça qu'elle a montré. Et ça a été très fort pour moi, parfois dérangeant de me voir comme ça, parce que je me suis dit, oh là là, si le public voit à quel point c'est souffrant, finalement une création c'est difficile, c'est pas naturel. Mais en même temps, comme toujours chez Claire Denis, il y a cette lumière de dans les plans. Je sais que Claire dit toujours que c'est quand elle filme, il faut que ce soit le cadre de la caméra qui soit amoureux. Et Claire Denis a une manière de filmer amoureusement ce qu'elle voit. Et quand on est devant une caméra de Claire Denis et d'Agnès Godard, puisque c'était aussi elle qui était là, on sent bien.
Alors, il y a les collaborations dont nous venons de parler, mais est-ce que vous avez recours à ce qu'on appelle des regards extérieurs à un moment du travail? Est-ce que vous avez besoin aussi de peut-être de partager vos réflexions sur le travail en cours? Alors, si oui, avec qui?
Oui, alors ça dépend des moments, dans les répétitions, mais en tout cas j'aime beaucoup inviter des amis, des collaborateurs, des personnes en qui j'ai confiance pour faire des retours critiques. C'est toujours dangereux, il faut savoir écouter, prendre et ne pas prendre. Moi j'avoue que je suis assez perméable, j'écoute un peu tout, après je suis toujours très paniquée parce que je me dis « ah mais oui, il a absolument raison ». Donc c'est hyper déstabilisant et je suis très influençable et j'ai un peu tendance à écouter tout le monde. Donc il faut absolument que j'arrive à sélectionner un peu les regards. Mais par exemple, il y a des gens, il y a une personne, par exemple comme Stéphane Bouquet, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été longtemps. Donc Stéphane Bouquet qui est écrivain, scénariste, poète, qui a aussi joué dans une de mes pièces. Stéphane est quelqu'un auquel je suis très attentive à ses retours, mais aussi mes producteurs. Voilà, donc c'est des moments un peu difficiles, il faut faire un peu attention.
Alors, question qui découle, mais qui est aussi adaptée pour tous les artistes de ces masterclass sur France Culture, comment est-ce qu'on sait qu'une œuvre est achevée ? On sait que c'est fini, qu'il ne faut plus y toucher, si tant est que ça puisse vraiment exister en spectacle vivant.
Non, une œuvre n'est jamais achevée, mais elle est stabilisée. C'est ça, moi je dis
presque un terme médical, ça.
Oui, c'est un terme médical, c'est-à-dire il arrive à un moment donné, moi je le dis vraiment, le moment, j'arrive vraiment à l'identifier avec les danseurs, je dis bon là, voilà ce qu'on a stabilisé, et maintenant on est dans des sortes de variations. Donc on peut aller un petit peu au-dessus, un peu en dessous, mais il y a une espèce de ligne qui est écrite et il faut pas que ça bouge cette ligne-là. Donc on l'identifie, on l'explique, on en parle, c'est très 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 précis. Et cette stabilisation, il faut pouvoir la conserver. Et donc cet état de gris qu'on établit, tout ça c'est très très très, très technique, mais c'est une manière aussi de savoir. C'est une sorte de contrat aussi qu'on a avec les danseurs à ce moment-là.
Mais alors, si j'en crois votre site internet, vous avez créé ou co-signé 53 pièces chorégraphiques. Vous avez joué certaines d'entre elles sur une durée assez longue. Alors peut-être m'arrêter dans un premier temps sur cette question-là. Comment on stabilise sur une durée assez longue d'exploitation d'une pièce ? Comment est-ce que une pièce que vous avez jouée 30, 40, 50 fois reste dans cette stabilisation ?
Alors il n'y a pas de règle, mais c'est toujours à partir du moment où on joue la pièce face au public que commencent les stabilisations en général. Parce qu'en fait, bien sûr, il faut que le public soit là. C'est lui qui est le garant, le témoin de ce moment où la pièce s'arrête, s'arrête au sens où elle est finie, Mais elle est encore en germe, il y a encore des choses qui se passent. Et c'est au cours de ces tournées, avec aussi les retours des spectateurs, avec la façon dont ils l'ont accueilli, dans la façon dont ça s'est passé pendant le spectacle, qu'on commence à stabiliser la pièce. Il faut parfois 10, 15 spectacles avant d'arriver à trouver ça. Parce que moi, je suis très sensible à ce que me disent les spectateurs.
Eux aussi vous influencent beaucoup.
Oui, oui. Après, il y a de tout, mais aussi, je pense que on ressent le public. On le sent physiquement. Moi, je le sens quand je suis sur le plateau, et c'est une expérience très très troublante. On sent une salle. On sent comment elle réagit. Alors, bien sûr, pas au niveau individuel, mais je veux dire, on perçoit une sorte d'empathie avec lequel on travaille. Ça fait partie de notre métier, cette empathie. Elle nous nourrit. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important.
Je poursuis sur ces 53 pièces, une petite cinquantaine signée seulement Mathilde Monnier. Il me semble que vous en avez très rarement reprises d'anciennes. Il y a des durées de vie qui sont assez longues, mais vous n'allez pas reprendre une pièce de 92, de 2004. L'idée de répertoire, ça vous est étranger? Ce qui vous intéresse, c'est de continuer à créer, et les pièces qui existent, qui sont en vie, en tournée, stabilisées, mais pas revenir en arrière?
Non, j'aimerais beaucoup avoir un répertoire. Je pense que quelque chose qui m'intéresserait. Maintenant, d'un point de vue pratique, c'est compliqué. D'abord parce que dans mes pièces, il y a des scénographies. Donc il faut pouvoir, par exemple, la pelouse dans Tempo 76, il faut de la pelouse. Mais enfin, ça se trouve encore aujourd'hui. Mais après, il y a les danseurs. C'est-à-dire, il faut avoir une compagnie fixe. Mais sur le fond, je pense que j'aimerais beaucoup pouvoir avoir un répertoire. Et quand j'étais au centre chorégraphique à Montpellier, on tournait toujours 4-5 pièces en même temps. Donc il y avait des pièces qui avaient 5-6 ans, il y avait des pièces récentes, il y avait des pièces futures, en cours. Voilà, il y avait toujours plusieurs pièces chorégraphiques qui étaient proposées.
Parce que pour rester à Montpellier, la question de la transmission, c'est que c'est une affaire complexe en danse. Il y a le travail donc assez exemplaire et rare des carnets Bagué, qui ont donc, dès la disparition de Dominique Bagué, entrepris de faire vivre son travail et son œuvre. Ça pose aussi la question, un peu autrement, mais de la postérité. Est-ce que ça se pose pour vous? Est-ce que vous aimeriez que des pièces de Mathilde Monnier soient données dans très longtemps, quand vous ne serez plus là?
En fait, je n'y ai jamais réfléchi. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que... J'ai pas de réponse en fait à cette question.
Mais des jeunes gens qui aujourd'hui ont pour la première fois un spectacle signé Pina Bausch, c'est important qu'ils puissent le voir.
Ah oui.
En sachant que les interprètes sont pour beaucoup les mêmes encore aujourd'hui.
Oui, oui, c'est ça. C'est ça la difficulté. Après, je pense que j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui restent. Je pense que c'est important. Je pense, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait au Centre National de la Danse. On va interroger des jeunes, du jeune public, des jeunes danseurs, et on leur dit qu'est-ce que vous aimeriez voir dont vous avez entendu parler que vous n'avez pas vu. Et alors ils nous disent ah ben tiens, moi la pièce de Vera Montero, Stel Solo, voilà, la pièce de Mark Tompkins, Lucinda Child, telle pièce là. J'en ai toujours entendu parler. J'ai vu des extraits en vidéo, mais je la vois pas. Et on essaye donc de remonter ces pièces, et bon, et peut-être une fois une de mes pièces, bien sûr, avec plaisir. Et je pense que c'est important, parce que de la même manière que dans les arts visuels, il y a cette possibilité de pouvoir retraverser l'histoire d'une manière au présent. Dans la danse, moi je milite beaucoup pour que voilà, ce soit pas l'histoire contemporaine, soit pas que les créations d'aujourd'hui, mais qu'on puisse sans cesse pouvoir faire une sorte d'aller-retour avec des pièces qui sont au moins autant contemporaines. Et c'est pas parce qu'elles sont pas d'aujourd'hui, mais qu'elles sont d'il y a 20 ans, qu'elles ne sont pas contemporaines, et que voilà, on puisse retracer cette histoire-là. Donc voilà, ça fait partie quand même de ce qu'on a mis en place à Pantin, au Centre National de la Danse, et que je défends avec vigueur.
Alors, concernant le présent, Mathilde Monnier, comment est-ce que vous vivez la réception, alors publique, vous l'avez dit un peu, de votre travail, mais la réception critique, le fait de jouer dans le monde entier, pas seulement d'avoir un rayonnement national, mais international, est-ce que tout ça, ça compte d'exister dans cet espace de l'art au présent pour vous?
Oui, bien sûr, ça compte. Et puis, je crois qu'on construit aussi des fidélités avec des lieux à l'international. Je pense par exemple à Impulse Dance à Vienne, mais aussi à des lieux à Berlin, aux États-Unis et au Portugal, par exemple. Et de savoir qu'il y a effectivement des programmateurs, des structures, des lieux, un public qui vous suit. Bon, c'est très gratifiant, bien sûr, c'est très rassurant, très important, et voilà. Et ça, et c'est souvent cette reconnaissance à l'international qui parfois est plus, parce qu'elle est plus immédiate, en fait. Elle est et souvent, moi, mon travail a été plus reconnu à l'international que immédiatement en France. Mais je crois que c'est pour beaucoup d'artistes comme ça.
Il y a la casquette de directrice, Mathilde Monnier, dont on n'a pas parlé, 20 ans à Montpellier, au Centre chorégraphique, devenu national, puis depuis 3 ans, au moment où nous enregistrons cette masterclass avec vous, au Centre National de la Danse. Vous l'avez dit, mais c'est peut-être bien d'expliquer de quelle façon ça se concrétise. Il s'agit d'appréhender la direction d'une institution comme un geste artistique, mais concrètement, ça veut dire quoi ?
Alors, concrètement, donc moi je suis directrice générale de cet établissement public, donc c'est une responsabilité importante, parce que c'est vrai que le centre de la danse est un peu unique. Il a des missions qui sont des missions bien sûr de création, de patrimoine, mais surtout, je pense qu'il a surtout la responsabilité de défendre un certain nombre de valeurs, un certain nombre de priorités, de problématiques qui sont au cœur même de la danse aujourd'hui. Et je crois qu'il doit être aussi un espace fédérateur. C'est-à-dire, c'est ça aussi que j'essaie de construire aujourd'hui. C'est-à-dire, non pas le Centre National de la Danse comme un modèle de ce qu'il faudrait faire et comme une espèce de lieu institutionnel, mais il est un lieu institutionnel, mais plutôt un espace qui rassemble la profession, qui rassemble le public et la profession, et qui permette aussi aux artistes de se retrouver, d'échanger, parce que je pense qu'aujourd'hui, il manque beaucoup de ce type de lieu. On est et les artistes, le premier, sont dans une mobilité qui s'est décuplée, c'est-à-dire... finalement, on reste dans les festivals, le temps dans les festivals est très très court, les gens ne se croisent pas, tout va beaucoup plus vite, et un des paris qu'on s'est lancé au Centre National de la Danse, c'est voilà, de créer un espace-temps où on peut prendre le temps de se parler, d'échanger des expériences, de voir des films ensemble, d'écouter des conférences, de montrer le travail les uns des autres, et c'est essentiellement ça. Et c'est en ce sens-là où c'est un lieu physique. Mais c'est un lieu aussi qui, un lieu de rassemblement.
Et ce travail de direction, il prend quoi et il donne quoi à la créatrice, à l'artiste que vous êtes, Mathilde Monnier ?
Alors, je ne sais pas ce qu'il me donne, je commence à le savoir un peu maintenant. En fait, j'ai beaucoup appris, parce qu'effectivement, il y a toute une part administrative, technique, de que sont aussi les établissements publics et que la responsabilité de ce poste génère. Donc c'était assez intéressant en tant qu'artiste, de se coltiner ce type de tâches et de se dire qu'un artiste est aussi peut-être capable de faire ça avec un petit peu différemment que quelqu'un qui viendrait d'une école de Sciences Po. C'était une sorte de défi, et moi je pense qu'il y a de l'artistique un peu partout. En tout cas, j'essaye d'en mettre un peu partout dans les relations, même dans parfois des dérogatives du ministère qui sont extrêmement techniques. J'essaie de regarder ça aussi avec un certain humour et légèreté. Voilà, et d'amener aussi un autre esprit dans le travail, ce qui est difficile dans ce type de grande maison. Et puis d'incarner aussi d'incarner la maison, c'est-à-dire moi en tant qu'artiste, finalement mon travail, mais aussi mon expérience, voilà, donne une autre image de cette maison qui permet aussi aux autres artistes de venir. Donc ça, c'est aussi important.
Ça, c'est pour le côté donne, mais prend, c'est quoi ? C'est du temps, de l'énergie ?
Ça prend beaucoup de temps, oui. Mais ça donne de l'énergie aussi parce que on est très moteur en fait. On peut faire les choses, on a la possibilité et ça c'est quelque chose d'extraordinaire en France. Je pense que c'est quand même et j'y crois toujours, c'est que malgré tout, si on veut dans l'institution, on peut encore faire des choses, on peut encore changer les choses. Si on se laisse pas complètement envahir par la lourdeur de l'administration et si on en a une certaine foi quand même, une certaine utopie, désir, il faut beaucoup beaucoup de désir, on peut encore faire bouger les choses énormément.
Et puis comme on s'achemine vers la fin de cette masterclass de Mathilde Monnier sur France Culture, j'ai évoqué tout à l'heure les 50 et quelques créations depuis bientôt 35 ans, est-ce que vous imaginez que la source puisse se tarir, que finalement après une création, ben, il n'y a pas nécessairement une autre création, et que c'est pas d'ailleurs forcément problématique. Est-ce que ça pourrait s'arrêter ?
Non. on a toujours peur que ça s'arrête, mais je pense que ça se transforme plus que ça s'arrête, parce que j'imagine bien que si un jour, je peux pas danser, je peux toujours faire danser les autres, c'est ça qui est bien dans ce métier. C'est qu'on n'est pas obligé de danser soi-même et que... Voilà, il y a d'autres techniques pour transmettre que de montrer le mouvement ou que de danser soi-même. Et puis j'imagine toujours que je pourrais écrire, que ce sera aussi une autre manière de créer, ou de faire des tas d'autres choses différentes. Je pense que créer, c'est aussi initier des projets qui sont pas forcément des projets de création, inventer des manifestations. Le fait de créer se fait à plein de niveaux. Moi, je mets pas la création que dans une pièce chorégraphique. Je la mets à beaucoup, beaucoup d'endroits. Le CND, pour moi, est une vraie création aujourd'hui. C'est un lieu d'invention. Donc, ça pourrait être aussi des choses comme ça, comme ça pourrait être de continuer à faire d'autres pièces.
Une vie après la danse, si on parle vraiment en termes de discipline, c'est possible. C'est autre chose que la danse.
Oui, 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 il y a une vie après la danse, mais la danse sera, je pense, toujours là. Difficile de se projeter dans 20 ans, parce que, bien sûr... les limites du corps, malgré tout, un jour me rattraperont peut-être, mais je pense très tard.
Merci beaucoup, Mathilde Monnier.
Merci.
C'était la masterclass de Mathilde Monnier avec Arnaud Laporte. Attaché de production Mathieu Maroudin, coordination Arnaud Laporte, réalisation Olivier Guérin.